La révélation. Son œil perçant fixé droit devant lui, Pierre Tanguy, à la place qu'il affectionnait et que nul ne lui disputait, en une sorte de fonction de guetteur attitré de l'équipage, à la base du Beaupré, étudiait les parages et semblait ainsi à l'avant la prunelle grande ouverte et intelligente du rapide bâtiment se dirigeant de lui-même sur la mer. Comme il bruinait assez fort au sortir de Roscoff, où le Penbaz avait dû chercher un refuge contre la bourrasque qu'il avait assaillie au retour de la croisière de 48 heures, qu'il venait de pousser jusque vers Ouessant et l'entrée de la Manche, il était plus attentif que jamais à cause des dangers de toutes sortes qui hérissent comme une défense naturelle le large estuaire de la rivière de Morlaix. La croisière avait été plus longue que d'habitude. Torre et Penn n'étaient jamais restés si longtemps en mer et ne s'étaient jamais risqués aussi loin. Le cutter avait capturé coup sur coup trois petits bâtiments de commerce fourvoyés dans ces parages et chargés de marchandises à destination de l'Angleterre, un lougre espagnol, un schooner portugais et une goélette de Southampton. Faisant monter Postec sur la goélette, avec quelques solides gaillards, parmi lesquels les trois frères Guisnou, confiant le lougre à Kéribin et le schooner à Lantoc, Thor et Penn avaient pu atteindre Roscoff sans être retrouvés ni poursuivis par les vaisseaux anglais que le mauvais temps avait contraint à gagner la haute mer. À Roscoff, la bourrasque un peu calmée, le capitaine avait décidé d'expédier son lieutenant avec les trois prises sur Morlaix, tandis que lui-même rentrerait à Tromelin et jetterait l'ancre dans l'anse de Primel. Après cette absence plus longue que d'ordinaire, il lui tardait de se retrouver chez lui. Il lui tardait surtout de courir à Plougasnou, de revoir celle qu'il pouvait désormais considérer comme sa fiancée depuis l'aveu et la déclaration de l'oratoire et dont il ne s'éloignait plus qu'à regret, oublieux de sa vieille passion pour la mer. Postec et Kéribin, sous la protection des batteries de la côte et du château du Taureau, suffisant désormais à conduire à eux deux les trois vaisseaux capturés jusqu'à Morlaix, sans avoir à craindre une attaque anglaise, Lantoc était revenu prendre sa place sur le cutter, dont Tanguy, qui eut navigué les yeux fermés à travers les passes et les courants, assurait la direction. La bruine ou le crachin, très dense à cette heure matinale, où le jour était encore très gris, rendait la navigation particulièrement dangereuse. Malgré cela, Thor et Penn, après avoir vu disparaître vers Paimpoule le lougre, le schooner et la goélette, qui toucheraient avant peu au port de Morlaix, avaient donné l'ordre de lever l'ancre. Lantoc près du timonier, Tanguy à l'avant, sa direction assurée, le capitaine descendit dans sa cabine pour procéder à sa toilette. Il voulait, dès l'arrivée, sans même avoir besoin de s'arrêter au château de Tromelin, pouvoir partir immédiatement pour Plougasnou, annoncer son nouveau butin, mais plus encore que de recueillir les remerciements, les félicitations auxquelles il avait droit, trouver sa récompense dans le doux sourire par lequel il savait devoir être reçu. Dans la cabine, le jeune capitaine, le torse nu, pour être plus à l'aise, se plongeait la tête dans une banne d'eau fraîche, savourant la joie de ce froid qui le réveillait, ranimait sa vigueur et le reposait des 48 heures qu'il venait de passer, sans prendre de repos, ayant l'œil à tout, veillant sur l'équipage, sur le bâtiment, avec cette conscience qu'il mettait à tout ce qu'il faisait. À grand renfort de savon, il se frictionnait les bras, la poitrine, la figure, la tête, s'efforçant d'effacer la moindre souillure de son corps, se voulant plus propre, plus net qu'il ne l'avait jamais été. « Ouf, cela fait du bien !» Une grosse voix derrière lui grommela en riant. « C'est mieux que le récurage du pont un jour d'inspection générale, oh diable ! En v'là une toilette soignée !» Tout ruisselant d'eau, le jeune homme se retournant, une serviette entre les mains, fit « C'est toi, vieux Lantoc ? Alors, tout va bien là-haut, ta présence me l'assure. » Au mieux des mieux, le Zamégues est en vue et Tanguy veille à l'avant. Dans une petite demi-heure, on sera à Fourcher sur les deux ancres, à Tromelin. » Le capitaine reprit en s'essuyant avec délice. « Oh, je sais bien que pour que tu sois là, il faut que rien ne cloche sur le pont. Tu ne laisserais pas ainsi le timonier tout seul si nous n'étions pas en bonne route et près d'arriver, malgré toute la confiance justifiée que tu as en ton quartier maître et en ton homme de barre. Eh, vieux Marsouin, je te connais depuis le temps où nous nous sommes trouvés nez à nez pour la première fois. » « Nez à nez, vous l'avez dit, commandant, et cela autant que les lames qui étaient autrement hautes que par ici nous le permettaient. Quelles lames ! J'en ai bien vu depuis, mais celles-là, je ne les ai jamais oubliées. Faut dire aussi que dans le voisinage de ce maudit Cap Horn, il en est toujours ainsi. » Tout en bavardant, Lantoc allait, venait, tournant et retournant autour du jeune homme, qui s'épongeait à tour de bras le visage et la poitrine, sans trop remarquer ce manège bizarre. Le capitaine continuait. « Moi non plus, je n'ai pas oublié. Je me souviens même mieux que toi. Veux-tu le parier ? Ainsi, tu ne dis pas tout. Que moi, le naufragé, je me suis trouvé cramponné à un morceau de bois, bousculé par une vague, renvoyé par une autre, à demi-mort de froid, de faim, d'épuisement, n'ayant plus connaissance de rien, ni du présent, ni du passé. C'était dans mon rôle, hein ? Mon navire avait disparu, l'équipage était englouti corps et biens, tout avait péri, sauf moi. J'étais l'épave, la pauvre petite chose perdue dans l'immensité et destinée à périr. Mais toi, hé, Lantoc, qui naviguais les pieds sur un pont solide avec un brick superbe filant toute voile dehors, c'est-à-dire bien à l'abri des dangers que je courais, pourrais-tu m'expliquer ce que tu faisais là, déjà pas mal loin de ton bateau, ma foi ? N'ayant pour t'aider à te soutenir qu'une misérable bouée pas plus grosse que ma pièce de bois, et nageant, nageant. » Le maître d'équipage parut embarrassé. « Je vais vous dire, commandant, c'était moi qui le premier avait vu l'épave avec quelque chose accroché dessus. Ce quelque chose, c'était vous, sauf votre respect. Mais à bord, on se moquait de moi, rapport à ce qu'on prétendait que j'avais la berlue, et que je prenais un tas de goémons pour un être humain. Le capitaine ne voulait pas arrêter, vu le temps qui n'était pas fameux et les parages périlleux en diable. Alors je suis tombé à l'eau. Plouf ! Un homme à la mer, qu'on a crié. Un camarade m'a jeté la bouée, que j'ai pu crocher, histoire de m'aider un peu, car ça déferlait en masse là-dedans. Et alors ? Tu désertais tout simplement, vieux cachalot. Conseil de guerre, peine de mort, dit en riant avec attendrissement le jeune homme. Ah, scélérat de violent toc ! Quel misérable tu étais déjà ! Tu ne m'avais jamais dit ça. Il t'a fallu du temps pour l'avouer. » Malgré lui, le vieux marin souriait, ne sachant comment se défendre. Il objecta. « Il y a d'autres choses encore que je n'ai jamais dites. »« Ah ah, c'est du joli. Et tiens, pendant que nous y sommes aux confessions, aux aveux, sais-tu bien que je devrais te faire mettre au fer ?» Le maître d'équipage ouvrit la bouche et les yeux, sans pouvoir répondre, saisit. « mais oui, tu te déranges. Je le sais, d'autres aussi le savent qui t'ont vu, surpris. Tu cours débordé, toi qui devrais donner l'exemple, toi le capitaine d'armes, autant dire le grand juge. » Et laissant retomber sa serviette, les deux bras pendants, grossissant la voix, Thor et Pen gronda lentement, essayant de garder son sérieux. « Tu as une amoureuse ? Poulzic et Kergustel la connaissent, ils t'ont aperçu chez elle, lui faisant la cour, là-bas, à l'extrémité de la plage Saint-Jean-du-Doigt. » Lantoc avait-il surpris la plaisanterie ? Avait-il entendu ? Le capitaine n'aurait pu le savoir, car le marin, les yeux écarquillés, la physionomie transformée, tendait la main droite vers la poitrine de son chef en balbutiant. « Là, là, c'est elle, c'est bien elle !» Sur la teinte foncée de la peau rougie par le vigoureux frottement de la serviette auquel venait de se livrer le corsaire sur lui-même, une marque blanche luisante ressortait à la hauteur du sein droit, un peu en biais, plus large du haut que du bas. Lantoc reprenait. « Le couteau, la lame !» Thor et Pen, suivant la direction du doigt de Lantoc, regarda sa poitrine et fit « Ceci ? Une cicatrice, sans doute. Je me la suis toujours connue, mais je serais bien embarrassée s'il me fallait dire d'où elle me vient et ce qui l'a produite. Tu dis un coup de couteau ?» Son compagnon secoua la tête, expliquant. « Non, non, pas du tout. Je veux dire en forme de lame de couteau. » Le corsaire regarda de nouveau. En effet, si on veut, la pointe dirigée vers le creux de l'estomac.
Oh,
on peut y voir tout ce qu'on veut. C'est donc la première fois que tu la remarques. Cependant, tu as dû me voir plus d'une fois dans ce costume. Oh, bien sûr, même que c'est aussitôt repêché que j'ai vu cette marque, avant toute chose, lorsque je vous ai ramené sur le pont du brick. Car c'est encore moi qui, avant d'aller me changer, vous ai frotté, frictionné pour vous faire revenir à vous. Vous étiez quasi mort, au point que le maître, qui n'était pas tendre, me disait « Grande bête, tu te jettes à l'eau pour repêcher les cadavres maintenant, et tu me forces à mettre en panne au risque de recevoir la lame par le travers, en des endroits où c'est la perdition des perditions d'un navire. Je devrais te faire administrer 20 coups de garcette pour te réchauffer après un pareil bain. Ça t'apprendrait à faire le Terre-Neuve en face du Cap Horn. » Il s'est radouci quand il a vu que vous respiriez encore. 10 jours plus tard, il n'y paraissait plus. Ah, un vrai miracle, votre guérison en si peu de temps. Vous grimpiez à la pomme d'Emma comme un vrai gabier, et vous deveniez mon mousse, mon fils. « Je n'ai pas oublié, cher Violentoc, » murmura le jeune homme, étreignant la main du vieux matelot. « Un père que tu as été pour moi, tu le seras toujours. » Le maître d'équipage s'agitait, impatient de dire ce qui, depuis sa visite à la vieille Tinaïque Cornou, était devenu son obsession. Il fit tergiversant. 20 ans de cela, 20 ans. C'est vrai, 1793 que c'était, et nous voilà en 1813. J'avais 10 ans, ou du moins je les paraissais, car mon âge, c'est comme mon nom. Fut ! Pas le moindre souvenir, fit le corsaire, heurtant son front de son doigt. J'avais tant souffert, sans doute, le temps que je suis resté perdu en mer, que toute mémoire s'était abolie en moi, sauf celle de la langue que je parlais, probablement à force d'avoir crié, appelé, fait des prières. La langue bretonne. Je devais être breton, c'était sûr. Lantoc insinua doucement. « Mais si, des fois, on vous aidait un peu, si quelque chose, quelqu'un... Enfin, tenez, par exemple, vous n'avez jamais essayé de vous rappeler le nom du bâtiment sur lequel vous vous trouviez comme mousse, bien sûr, ou celui de son capitaine. »
Thor Hepen chercha, faisant effort de mémoire, puis haussa les épaules.
« J'ai beau me torturer le cerveau, rien, non rien. Un grand trou noir, voilà tout. Bah, qu'importe, ai-je besoin de cela maintenant? Je suis heureux, si tu savais, Lantoc, le plus heureux des hommes. Je me moquais de toi tout à l'heure, c'était méchant. Ce n'est pas toi qu'on devrait alors mettre au fer. C'est moi, car c'est moi qui ai une douce, c'est moi qui... » Le marin insista, ne voulant pas l'écouter. « Voyons, si je vous disais des noms, moi, les navires perdus en mer, corps et biens, cette année-là, on en connaît. Ainsi, eh bien, il y a eu l'Armor de Morlaix, capitaine Morvan, un cousin au garde-côte de Plougasnou. »
Le corsaire avait tressailli légèrement, comme à un son connu, déjà entendu. Il répéta « L'Armor ?» Puis secoua la tête. « C'est drôle, cela m'a surpris. » « Mais non, non, rien de pareil dans mon souvenir. L'Armor, Morvan, décidément cela ne me rappelle rien. »
Un moment, le maître d'équipage avait espéré un réveil de la mémoire en saisissant ce frémissement. Il conclut. « C'est bizarre, et pourtant, mais vous pouvez ne pas vous souvenir, et puis que cela soit tout de même. Car ce bateau, un Morlaisien que c'était, et vous, breton que vous êtes, alors, n'est-ce pas, ce serait si naturel. Et puis... « La cicatrice, il y a la cicatrice. On a pu retrouver des gens après des années et des années, rien que par un signe comme celui que vous portez. Je l'ai entendu raconter. »
Depuis un moment, Thor Hepen, qui avait, tout en causant, achevé de se rhabiller, regardait la physionomie de son interlocuteur avec une curiosité croissante. Il fit brusquement.
« Ah, ça, Violentoc, on jurerait que tu en sais plus long que tu n'en dis, que tu as appris, découvert quelque chose me concernant. » « Range à tribord, Zamigues. Laisse à bâbord la roche carne. Tribord, balise Raoul. Tribord, rock and treize, brase. »
La voix de Pierre Tanguy, annonçant ainsi que le cutter franchissait la passe de l'anse de Primel, tomba du pont, arrivant jusqu'à eux.
« Allons vite, parle !» ordonna Thor Hepen. « Nous arrivons, il va falloir s'occuper de la besogne. Travailler les bras, non plus de la langue. »
Lantoc se décida, lançant tout d'un trait.
« Eh bien voilà !» Cette vieille Tinaïque Cornou que je suis allée voir, mon amoureuse que vous disiez en riant, la sorcière ainsi qu'on l'appelle, en causant de choses et d'autres du passé, elle m'a raconté qu'elle avait connu, soigné,
sauvé du feu où il était tombé un petit enfant de Saint-Jean-du-Doigt, et que cet enfant en avait gardé à la poitrine, du côté droit, un sillon luisant comme une lame de couteau, puis que cet enfant était parti comme mousse sur l'Armor et avait péri en 1793 avec tout l'équipage. Enfin, des choses qui m'ont bouleversé rapport à vous, à ce que j'avais vu. Mais je pouvais me tromper, j'hésitais à vous le dire. »
Le jeune homme rougit, pâlit, portant la main à son côté comme si la plaie l'eût brûlé encore, balbutiant.
« Hein ? Moi ? Saint-Jean-du-Doigt ? Oh, quelle lumière dans mes ténèbres !»
Puis d'un élan,
« Mais mon nom, le nom de cet enfant !»
Lantoc, baissant la tête et levant les mains, avoua « Elle ne me l'a pas dit. »
Une agitation terrible s'empara du corsaire et les pensées tourbillonnèrent en lui affolantes. « Savoir, oh, savoir !» Une secousse violente, le bruit des chaînes, des ancres se déroulant avec fracas, interrompirent les causeurs. Le Penbaz atterrissait. Lantoc et Thorhépen se hâtèrent de grimper sur le pont. Le crachin avait presque cessé. Les nuages se dissipaient. La journée serait belle.